Fin août 2024, une nouvelle a pas mal secoué le monde de la tech, hein. L'arrestation en France de Pavel Durov. Alors, pour notre exploration des sources aujourd'hui, on va se pencher sur cet événement, c'est assez marquant.
Ah oui, tout à fait. Et Pavel Durov, c'est pas n'importe qui. C'est cet entrepreneur russe d'origine, naturalisé français. Il a créé VKontakte d'abord.
Le Facebook russe, en quelque sorte.
Exactement, le principal réseau social russe. Et puis ensuite, en 2013, il a lancé Telegram, une messagerie qui est devenue un géant mondial. On parle de plus d'un milliard d'utilisateurs.
Un géant, oui. Et son fondateur qui se retrouve arrêté comme ça, le 24 août, à la descente de son jet privé, près de Paris. C'est quand même un coup de théâtre. Alors, qu'est-ce qu'on lui reproche exactement, d'après les infos qu'on a?
Alors, le cœur du sujet. D'après les autorités françaises, c'est un manque flagrant de coopération et aussi de modération sur Telegram. Elle pointe du doigt l'utilisation massive de la plateforme pour des activités criminelles.
Et la liste est longue, apparemment.
Oui, très longue. Fraude, trafic de drogue, on parle de crimes organisés, de blanchiment d'argent, promotion du terrorisme et même de pédocriminalité.
D'accord. Donc l'argument principal, si je comprends bien, c'est que Telegram laisserait faire ou en tout cas ne collaborerait pas assez pour empêcher tout ça.
C'est exactement ça. Ce présumé manque de coopération, c'est vraiment le point central. Donc notre objectif là, c'est d'analyser un peu les faits, les réactions et surtout les enjeux importants qui ressortent de cette affaire, toujours en se basant sur les éléments qu'on a bien sûr.
Très bien. Alors, allons-y. Comment Telegram a réagi officiellement face à ces accusations assez lourdes?
Telegram a communiqué, ils affirment respecter les lois de l'Union européenne et ils soutiennent que leur modération, elle est conforme aux standards de l'industrie.
D'accord, donc en gros, la ligne c'est « on fait comme les autres grandes plateformes ».
Voilà, c'est un peu ça.
Et c'est justement là que ça coince un peu, non? Parce que les critiques spécifiques à Telegram, elles existaient bien avant cette arrestation. Bon, et la défense de Durov lui-même, son avocat?
Alors, son avocat a tout de suite parlé d'arrestation ridicule. Il a présenté ça comme une attaque contre la liberté d'expression.
Ah oui, classique.
Et cet argument, il a trouvé un écho, jusqu'au Kremlin en fait, hein, qui a aussi dénoncé une atteinte à cette liberté.
D'accord, on voit tout de suite la dimension politique, voire géopolitique, qui s'ajoute au dossier. Mais si on va au-delà de ces réactions un peu à chaud, quels sont les vrais enjeux derrière tout ça?
Le premier, ça semble être cette fameuse responsabilité des plateformes.
Oui, et ça, c'est peut-être le point le plus crucial. Jusqu'où une messagerie comme Telegram doit aller pour modérer, pour contrer la criminalité? La question se pose de manière particulièrement aiguë pour eux, j'ai l'impression.
Et il faut peut-être expliquer pourquoi c'est si compliqué pour Telegram, non?
Est-ce que c'est juste une question de volonté ou est-ce que la structure même de la plateforme, sa taille, le chiffrement, est-ce que ça ne rend pas la modération plus difficile?
Ah, mais tout à fait. Vous mettez le doigt dessus. C'est une sorte d'asymétrie, si on veut. Telegram a une portée mondiale, mais semble parfois, disons, réticent à assumer les responsabilités légales, locales, qui vont avec. Son architecture technique aussi, les groupes énormes, le chiffrement de bout en bout pour certains échanges, ça crée des défis de modération qui sont objectivement différents de ceux d'un réseau social plus ouvert.
Donc ce n'est pas juste une question de coopération.
Non, il y a aussi la capacité technique et puis des choix fondamentaux sur la vie privée versus la sécurité. C'est complexe.
Ce qui nous amène assez logiquement à l'impact réglementaire potentiel. Est-ce que cette affaire pourrait servir de déclencheur pour durcir les règles en Europe ou même ailleurs?
C'est une possibilité, oui, très réelle. Si on regarde le contexte plus large, ça pourrait pousser les législateurs à être plus exigeants avec les plateformes sur la modération, la collaboration avec les autorités. Ça pourrait redéfinir un peu les obligations des entreprises tech en Europe. Et ça peut avoir des effets en cascade ailleurs dans le monde.
Et puis, il y a cette dimension géopolitique qu'on a évoquée. Telegram, c'est pas neutre dans les tensions Russie-Occident, n'est-ce pas?
Non, pas du tout. C'est un outil ambivalent, utilisé pour la communication libre, oui, y compris par des opposants politiques, mais aussi potentiellement pour la propagande, la désinformation, la coordination d'activités illicites. Surtout dans des zones de conflit ou de tension où la Russie est impliquée. Son statut est particulier. Fondé par un Russe en exil, très populaire en Russie, mais opérant depuis l'extérieur. Ça le met au cœur de ses dynamiques.
Oui, c'est un tableau assez complexe. Bon, pour finir sur les faits, où en est Pavel Durov aujourd'hui? Il a été libéré assez vite après son arrestation.
Oui, c'est ça. Remis en liberté le 28 août. Mais attention, il est placé sous contrôle judiciaire.
Ce qui veut dire?
Concrètement, interdiction de quitter le territoire français. Le temps que l'enquête continue.
D'accord. Donc, si on essaye de résumer les points clés de ce qu'on a vu, Une arrestation assez spectaculaire, des accusations graves de laxisme face à beaucoup d'activités criminelles, une défense qui met en avant la liberté d'expression, les standards de modération, et une situation judiciaire qui est toujours en cours pour Durov. Le cœur du problème, ça reste cet équilibre difficile entre liberté numérique et sécurité.
Cette bonne synthèse des éléments importants, oui. Ce conflit entre sécurité, liberté et la responsabilité des intermédiaires techniques, c'est vraiment au centre de l'affaire.
Et ça nous laisse peut-être avec une question pour la suite, une réflexion. Est-ce que cet événement pourrait vraiment remodeler les règles du jeu, les attentes envers les plateformes numériques à l'échelle mondiale? Quelle sera la nouvelle frontière entre la liberté d'innover, de communiquer, la protection des utilisateurs et le contrôle des États? C'est peut-être une partie de l'avenir d'Internet qui se joue là.